J'ai préparé, comme je fais souvent quand je fais une petite conférence, un PowerPoint. Mais ce n'est pas tellement pour faire l'effet conférence, c'est plus pour ne pas oublier les trucs. Donc, voilà. Donc, on va s'appuyer là-dessus. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous interveniez, que vous... C'est un peu... C'est pas, ça ira très bien quand même. Que vous me... Ah oui, ben c'est peut-être pas le bon ratio en fait. Je vais voir si j'ai un peu de choix. Que vous n'hésitez pas à m'interrompre surtout et à poser des questions ou à faire des remarques. Ce sera mieux comme ça. Un petit peu, mais c'est pas beaucoup mieux. Hein.
Je crois que très souvent le vidéoprojecteur t'impose ça.
Ouais.
Ouais. Quoi que là, ça.
Ouais, sauf que tout va être un peu. En hauteur. Attends, je vais refaire.
Ah, tu veux dire que c'est déformé là ?
Ouais. On va faire optimiser, on va voir ce qu'il nous dit. Ouais. Ouais. Ça va être tout petit.
Ouais.
Qu'est-ce qui est mieux ? C'est celui-là ? Là, ça va, je pense. Le ratio est bon. Il me semble. Bon. À chaque fois que je le mets en lecture, ça se resserre. Bon, ça, c'est embêtant. Bon, et si je fais pareil avec le petit, la version juste dernier test. C'est pareil. Ça revient exactement au même. Bon. OK. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez aller sur mon. J'ai un petit site perso. Alors, ce que voilà, je retrace juste un petit peu ce que j'ai fait. Donc, j'étais à la classe de Pierre Schaeffer et Guy Rebel au conservatoire entre 77 et 80. Au départ, je comprenais rien. Et puis assez vite, je me suis. Et puis j'aimais beaucoup en fait l'approche de Schaeffer. J'ai vraiment découvert la musique électroacoustique par les disques de Schaeffer, le SOS, le solfège de l'objet sonore, qui est vraiment une très très bonne introduction en fait à tout le travail de recherche de Schaeffer, plutôt que de lire le traité des objets musicaux, qui est quelquefois un petit peu indigeste et très abstrait. À la sortie du conservatoire, j'ai créé une association avec Philippe Leroux et Serge Delobier qui s'appelait Espace Musical. Donc on avait vraiment déjà une intention très forte de travailler sur la spatialisation en 81. Donc on a mis au point un dispositif octophonique. Donc on en est encore aujourd'hui à faire de l'octophonie. Et puis je faisais également du théâtre à cette époque-là. Avec Gérald Robard dans l'école de théâtre de Daniel Mesguich, en effet. En fait, ce que disait Roger tout à l'heure, c'est que j'avais fait des choses à la radio très jeune, en fait. J'ai commencé à faire de la radio quand j'avais 14-15 ans, à Radio France. Je faisais partie des ateliers d'enfants de Radio France, qui était vraiment une très très belle invention. C'est l'idée de Louis Dandrel, qui est un designer sonore, qui maintenant est un petit peu âgé, mais il est toujours en activité, il fait pas mal de choses très originales ou très personnelles, qui a été très jeune nommé directeur de France Musique et qui a fait une espèce de révolution culturelle à France Musique, puisqu'il a amené déjà plus d'échanges, de paroles, de discussions autour de la musique, mais aussi toutes les musiques, c'est-à-dire que jusque-là, France Musique était très très orientée classique, un peu d'opéra, un peu de musique romantique, mais il ne fallait pas aller trop dans le XXe siècle. Donc Louis Dandrel a aussi créé ces ateliers musicaux, et donc j'ai connu en fait la musique électroacoustique grâce à ça, parce qu'on faisait des percussions, de la radio, enfin des émissions de radio. Et puis, quand on a. Donc, j'étais à la radio comme dans ma cour de récré. Et j'ai commencé à vouloir aller au conservatoire par ce biais-là. La chose juste qui était intéressante par ça, c'est que je connaissais tout le monde à la radio. Et donc, pendant que j'étais au conservatoire et qu'on avait aussi un petit studio à la radio, j'avais accès à des studios de Radio France. Donc, notamment la nuit, on avait récupéré un double de clés. Je ne vais pas vous raconter comment, mais. Et donc, avec mon camarade Philippe Leroux, on utilisait les studios pour nous, la nuit. Donc, ça, c'était génial. Donc, on faisait des créations pour Radio France, pour des émissions d'été, où il n'y avait pas de vrais producteurs, parce qu'ils étaient tous en vacances. Donc, on avait quelques tranches comme ça où on avait pu faire Donc, ça, c'était vraiment génial. C'était vraiment une opportunité extraordinaire. Et très vite, on s'est fait éjecter. Donc, j'ai plus fait de radio à partir du moment où, enfin, quand j'ai eu 19 ans, j'ai plus pu faire de radio, jamais. Et donc, ça m'est resté, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous montrer. Une préoccupation en fait qui était vraiment la passion pour la dramatique radiophonique et la création radiophonique. Mais plus j'étais passionné, plus je rentrais dans cette théâtralisation du sonore, comme dit Pierre Buzzwildwald, ou cette théâtrophonie, terme que j'ai utilisé un petit peu plus souvent, parce que je ne voulais pas parler de radio, parce que c'était plus de la radio. Comme j'étais plus à la radio, je faisais de la. Alors, ce serait pas mal que je vous fasse écouter un petit quelque chose. Donc, en faisant du théâtre, je travaillais avec des acteurs. J'étais moi-même dans une école de théâtre. J'ai fait de la mise en scène. J'ai écrit des textes de théâtre. Et je faisais des bandes son et des musiques électroacoustiques de théâtre. Avec des revox, avec de la spatialisation, et des choses comme ça. Et donc, j'ai fait pas mal de choses dans cet esprit. J'aimerais bien vous faire écouter peut-être quelque chose à ce propos-là. On a de la stéréo.
Allô?
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait de cette petite pièce radiophonique qui a été fait en 2001, après les manifs où Le Pen était passé au deuxième tour. Donc il y a eu des grosses manifs, et c'était avec le studio Delta P à La Rochelle, dont Roger était aussi membre d'un petit collectif de compositeurs. On a la chance de produire un CD qui s'appelait Allô, t'es où? Et c'était autour des téléphones portables qui devenaient un phénomène très important. On avait envie de faire quelque chose sur ce thème-là. On avait fait avant sur la météo marine, et ça, c'est. Voilà. Donc on va écouter un petit extrait de ça. Par contre, j'ai pas de volume. Si je dois avoir.
Allô? Thelma? C'est toi? T'es où là? J'entends plein de bruit. Je suis sûr que t'es à la manif.
Ouais, c'est génial. Tu viens me rejoindre?
Tu sais, moi, les manifs.
Mon fils, ça va passer sous la fenêtre.
Oh, le film! T'es pas marrant.
Non, c'est rien. Tu vois, de la foule, tu sais.
J'entends pas. Tu sais, les téléphones passent mal. Tout le monde est pendu au bout du sans-fil. Bon, je te rappelle dans un moment pour voir ce qu'on fait, d'accord? Bisous!
Oui, c'est moi, Phil. J'ai vu les images à la télé. C'est le gros truc, dis donc. La fosse y est creuse à fond les bidons. Et j'ai compris comment il s'y prend. C'est du collage, ce qu'il fait. Un petit coup de Jeanne d'Arc, un zeste de discours communard, une bonne dose d'action française, et on dissout dans du patriotisme militariste, tout en posant dans la veste blanche du pseudo-démocrate. Bon, tu me rappelles, hein?
Votre message a été envoyé.
Annonçage, bipage, message.
Allô, fille? C'est chiant ton filtrage. Qu'est-ce que tu fais alors? Moi, je suis en pleine action là. Une vraie fête populaire. T'entends ce rythme? Tout le monde est en train de danser. Et j'ai vu plein de gens célèbres. Des acteurs, des journalistes, des chanteurs. Mélangés aux vrais gens pour une fois. Ça les change un peu de leur public en vie d'avance. Allez, je te laisse, bisous.
Allô?
Thelma n'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message.
Excuse-moi, j'étais à la fenêtre. T'as raison, c'est génial. À la télé, ils ne montent pas les vrais gens. Ça respire pas leur truc. C'est du montage, exactement comme la prestation du Borgne. On monte tout avec n'importe quoi. Au hasard, des aspirateurs d'images qui pompent toutes les saloperies du monde. Dis-moi où tu es et je viens te rejoindre. Ok? Bisous.
Votre message a été envoyé.
J'écoute.
Je suis à la vue, là, tu viens?
Tu veux pas qu'on se retrouve à la bastoche plutôt? C'est plus simple, non?
C'est dommage que tu n'aies pas de portable.
On en a déjà parlé 100 fois, Thalie. C'est de l'aliénation pure et simple, ce machin. Une contrainte supplémentaire que le système te fournit. Comme pour la bagnole. Aujourd'hui, les petites lignes de train n'existent plus et t'es obligé.
On ferait bien de remettre cette discussion à plus tard, si tu veux bien. Bon, alors, ce que je propose, c'est.
Allô?
Thelma n'est pas disponible. Au signal, veuillez dicter votre message.
Ils viennent de montrer la place de la République à la télé. Ça me paraît carrément impossible de s'y retrouver. Pour les portables, t'as raison, ça passe vite.
Bon, j'arrête là parce que si vous voulez l'écouter, elle est en ligne, cette pièce. Enfin voilà, l'idée c'est que toute l'action se fait par l'intermédiaire de ces répondeurs et de ces. Voilà. Donc, mais en même temps, on a. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire toujours dans le travail de théâtrophonie, en fait, dans toute cette période-là. C'est vraiment d'avoir un paysage extrêmement complet, avoir une immersion à travers le. Et avoir des plans, un travail de plan qui fait que. On peut avoir derrière simplement le dialogue ou le travail radiophonique ou le travail dramatique une véritable fiction qui se déroule avec des paysages, avec des actions, avec des prises de son extérieures. Voilà. Et donc ce travail, donc ça a été souvent des choses qui ont été comme ça en stéréo, enfin dans l'esprit plutôt radiophonique, puis d'autres choses qui ont été beaucoup plus théâtrales, ou par exemple avec une pièce qui s'appelait Orphée Tonmeister. Donc l'idée c'était que Orphée, en fait, du XXe siècle, ça, il n'aurait pas été aux enfers, il aurait été dans les studios de l'IRCAM. Il serait descendu dans les sous-sols et il aurait eu un auditorium pour jouer une pièce, pour créer une pièce électroacoustique pour faire revenir Eurydice des enfers, pour la séduire et la faire revenir, enfin la séduire ou la séduire les maîtres des lieux. Voilà, donc. L'histoire se passait comme ça, dans cette espèce d'auditorium un petit peu magique, toujours avec un texte de Stéphane Kempfer, où il y avait des révox empilés les uns sur les autres, avec des espèces de totems, de haut-parleurs, une lumière très théâtralisée. Et puis les révox se mettaient en marche automatiquement, parce que c'était géré depuis la console. Et on avait cette espèce de théâtralisation en fait, du dispositif sonore lui-même. Les acteurs étaient incarnés dans les haut-parleurs, c'est-à-dire que quand Orphée s'adressait à Hadès, il s'adressait à tel haut-parleur, quand il s'adressait à son sbire, il s'adressait à un autre. Enfin, voilà, il y avait tout ce jeu comme ça dans l'espace avec les haut-parleurs comme des entités scénographiques. Et puis, donc ça m'a amené en fait à une réflexion aussi sur la valeur en fait de la. Du document électroacoustique, c'est-à-dire, et Je voudrais vous faire entendre un autre travail qui date aussi de ce moment-là, qui est une réflexion en fait sur la manière dont l'enregistrement en fait a une sur la valeur documentaire de l'enregistrement. Et au-delà de la valeur documentaire, à travers l'idée de fixer le son sur le support, le questionnement de qu'est-ce qu'on fixe ? Est-ce que c'est une idée ? Est-ce que c'est un document ? Est-ce que c'est un propos ? Et en fait, le documentaire cinématographique hésite toujours entre le propos, c'est-à-dire tenir un discours, d'un côté, et puis être soi-disant objectif, c'est-à-dire poser la caméra, comme on dit. On pose la caméra ou on enregistre un témoignage, on capte un témoignage. Et en réalité, moi je suis convaincu que l'idée qu'on pose la caméra a peu de valeur documentaire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part d'interprétation assez forte, et l'idée de l'ethnologue, enfin du cinéma ethnographique, à mon avis, est peut-être pas fausse, mais en tout cas extrêmement sujette à caution. Je préfère de beaucoup avoir une approche intègre par rapport au document, par rapport à la captation, par rapport à la construction du propos, qu'une démarche intégriste qui voudrait considérer que le micro est neutre. Et donc, j'ai travaillé sur cette notion de ce que j'ai appelé la culture concrète, avec l'idée que on pouvait parler de ces dimensions documentaires de l'enregistrement comme des icônes, en fait. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement ? C'est une captation, mais du coup, c'est plus un son, c'est une image, en fait. C'est une captation, c'est une icône de quelque chose. C'est en même temps du texte, donc c'est de l'écrit. Si quelqu'un parle, c'est de l'écrit. En fait, quand on l'a enregistré, c'est écrit. Et puis, et en même temps, ça a une nature concrète, ça a la nature concrète du document. Donc, je pense qu'on est, Schaeffer, d'une certaine manière, nous montre en fait que la dimension document, en fait, peut permettre d'articuler des propos, mais il faut reconsidérer en fait la manière dont on considère l'enregistrement par rapport au texte écrit, par rapport à l'image photographique ou filmée. Et par rapport au son enregistré, voilà. Donc j'avais fait une pièce comme ça qui s'appelait La culture concrète. Et je voudrais vous faire écouter un petit extrait. Donc là, c'était vraiment un travail sur la manière dont on coupe, en fait, sur les artefacts de la coupe et des ruptures introduites par le montage comme moyen de discourir, en fait.
Hiéracime Lucave.
La grande salle du Congrès international d'ontologie. Nous proclamons la fusion du verbe et de la vision.
Le montage.
Je disais tout à l'heure, la fusion du verbe et de la vision.
Life, time, in his divine computer, nothing is ever lost.
La nouvelle encyclopédie.
La radio a donné naissance à la plus moderne des musiques, celle qui, non seulement emprunte leur voix aux hommes et aux choses, mais crée par l'artifice de sa technique des voix, des sons inconnus. C'est la musique concrète.
Gérard Millès.
Donc il y a une espèce de volonté de laisser trace divine dans cette histoire.
Le musicien Demiurge.
Maîtriser toutes les dimensions. De la création des sons à la diffusion. Repasser sans cesse de la réalisation à l'écoute et modifier à l'oreille jusqu'à obtenir le résultat définitif.
Il y a un plus 4.
Je ne module pas le son de mon instrument en direct, mais j'utilise les propriétés du support, des techniques et des outils, à la fois pour construire et pour faire sonner comme je peux. D'où l'apparition de nouvelles particularités et d'objets sonores, c'est-à-dire des bouts de support, des adresses de lecture, réelles ou virtuelles. Je gère l'aspect et le résultat de l'ordonnancement des sons.
L'objet, son, est rigide dans sa boîte et lui sont quasi irrémédiablement attachés son origine, ses qualités, ses accidents, etc. Il n'est ni une abstraction, ni un modèle, mais la chose même, concrète.
La phonographie d'un instant vécu du son.
Tout un chacun reconnaît au premier instant la nature propre d'un son. Il le range selon des critères universels. Mécanique, manuel, épure, calcul, erratique, organisé dans tel ou tel but, selon telle ou telle prémisse culturelle, etc. Ces tournures sont souvent repérables plus ou moins consciemment comme modes procéduraux et donnent ainsi sa couleur à la musique réalisée. Ces procédés considérés il y a 50 ans comme des effets bizarres
et provoqués instinctivement chez les novices la question « mais comment c'est fait ?» sont aujourd'hui compris par le plus grand nombre comme des signes.
L'oreille.
Seule l'esthétique acousmatique.
Bon, ok, j'arrête là. C'est juste pour avoir une petite idée. Voilà. L'idée, c'est comment est-ce qu'on peut en fait construire du discours. Quels sont les outils, par exemple, les petites. Comment on appelle ça quand on fait une liste, les petites puces sonores. Enfin voilà, il y a tout un travail comme ça sur le langage qu'on peut. Qu'on peut développer en fait, parce qu'aujourd'hui, on rentre aussi dans une préoccupation de design sonore. Aujourd'hui, on a un langage sonore qui est extrêmement pauvre. Alors qu'il y a sans doute un très très grand nombre de possibilités de développement, mais en fait, on a très peu de codes. On en a parce qu'on reconnaît les bruits, par exemple. Ça, tout le monde qui a manipulé une tasse dans sa vie reconnaît une cuillère dans une tasse. Mais dans les parties électroniques, on a très peu. C'est-à-dire que là, on avait le réveil, on a la sonnerie de téléphone, on a quelques éléments comme ça qui sont un petit peu reconnaissables, mais finalement très peu. D'où des difficultés qu'on rencontre, par exemple, quand on veut sonoriser des fonctionnalités de conduite automobile, quand on veut alléger la modalité visuelle, par exemple, et qui se complexifie de plus en plus, et des demandes de plus en plus fortes et insistantes de la part des fabricants aujourd'hui, puisqu'on est sollicité, on est très très sollicité à l'INSI par des projets donc de mobilité, et en particulier dans par l'industrie automobile. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est de plus en plus dangereux de conduire parce qu'il y a plein de trucs à regarder, et que la seule manière de s'en sortir, ce serait d'avoir un peu plus de son. Mais pour ça, il faut articuler beaucoup, beaucoup de signaux, et qui sont souvent impossibles à mémoriser. Donc, comment est-ce que ça va rentrer dans la mémoire? Sachant que si vous entendez ça, si vous entendez ça, si vous entendez un coup de klaxon, si vous entendez une machine à laver qui se met à accélérer, vous reconnaissez immédiatement. Il y a plein de signes comme ça qu'on connaît. Mais dans le monde électronique, on en a finalement très peu. Donc tout le travail, c'est d'arriver d'une part à en avoir plus, que tout le monde les reconnaisse, et en fait de rentrer un petit peu, de s'immerger davantage dans le monde de l'électronique sonore pour faire en sorte, quand je dis s'immerger, c'est pas juste faire de la spécialisation, c'est que ça soit lié à des actions, qu'il y a un vocabulaire plus enrichi, etc. Donc il y a beaucoup de questions en fait d'enrichissement du langage sonore. J'avais eu à un moment un petit échange avec Pierre Schaeffer parce qu'on voulait, on avait monté une association et on voulait travailler avec lui sur des associations, des nouveaux développements. Et notamment, moi, j'avais discuté avec lui de sonorisation pour les non-voyants. Donc à l'époque, ça commençait un petit peu à émerger, cette idée qu'on pouvait donner... on pouvait lire l'espace visuel et le transformer en son. Et donc, je disais, voilà, si on pouvait catégoriser en fait des objets visuels et leur donner une illustration sonore. Donc, maintenant, tout le monde fait ça. Voilà, donc, mais à l'époque, c'était un peu moins courant. Et donc, lui, il m'avait dit, oui, mais ça, c'est une très bonne idée. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'avec le son, on peut écouter beaucoup, beaucoup de choses différentes en même temps. On n'est pas... voilà, mais sauf que dans la réalité, très souvent, quand on met du son, on n'écoute qu'un truc à la fois, parce que c'est tellement bouché. Il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de langage. Donc, on n'entend qu'un truc massif. Et actuellement, en art, le travail sonore en art, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire que c'est du son massif. Alors c'est intéressant, hein, c'est pas en soi, c'est pas mauvais, sauf que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que si on fait que ça, on passe à côté de l'essentiel, quoi. Donc voilà. Alors je reviens à mon keynote. Alors la question de l'octophonie et de la musique cinétique, en fait, donc qu'est-ce que j'entends par là? Donc je me suis pas mal intéressé à cette question de l'octophonie ou du multipoint, de la spatialisation sonore, parce que l'expérience d'écoute du son spatialisé est quand même beaucoup plus riche que le son stéréo, mono. C'est pas la même chose, ça raconte pas la même histoire. En fait, si vous écoutez un concerto de Mozart sur un haut-parleur gros comme ça, unique, quelque part, ce sera toujours un concerto de Mozart, et c'est magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Out of Africa, par exemple, le film dans lequel il y a un phonographe de cette femme qui vit en Afrique avec son jardin, sa maison coloniale, etc., mais qui est en même temps très malheureuse parce qu'elle est très isolée, elle a des histoires d'amour compliquées, etc. Et puis elle a ce phonographe et elle joue toujours le concerto pour clarinette de Mozart, et on entend cette espèce de truchement dans ce son très aigre comme ça, mais c'est extrêmement émouvant, quoi. Vous prenez un morceau de musique électroacoustique, vous lui faites la même chose, il en reste souvent pas grand chose. C'est donc que la dimension sonore en fait est peut-être quelquefois plus importante que la dimension musicale, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des pièces de musique électroacoustique qui passent très bien dans un petit haut-parleur et puis d'autres pas du tout. C'est pas pour autant qu'elles sont moins bonnes. Hein, contrairement à ce que souvent des gens peuvent affirmer, il y a toutes sortes de dogmes comme quoi une vraie musique de film, c'est une musique qui peut s'écouter sans le film. C'est complètement débile, franchement. Pouvoir dire des choses pareilles, c'est comme s'il y avait une espèce de race supérieure de la musique. qui serait la vraie musique. Et le reste, c'est pas de la vraie musique. Voilà. Bon, je pense qu'on a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, et je vois pas pourquoi on ferait comme ça des barrières qui empêchent les formes artistiques d'avoir leurs spécificités.
Et c'est marrant parce que mine de rien, dans les diffusions, on va quand même vers un truc, écouter de la musique sur ces petits haut-parleurs, en MP3 sur Internet, et on le fait tous, moi je le fais et tout. Et du coup, ben, quand on fait ça, on écoute moins de musique électroacoustique forcément, parce qu'on écoute plus de la musique produite studio, des trucs qui peuvent passer là-dessus. Oui. Et comme tout le monde fait ça, c'est vrai qu'à la question « qu'est-ce que tu fais, t'as pas un truc à me faire écouter ?» ou quand on met une pièce en ligne sur Internet, on sait que potentiellement les gens qui vont l'écouter vont l'écouter là-dessus, et que du coup ça va pas du tout rendre justice à la composition et tout. Et on vit dans une époque où je trouve que les conditions pour écouter de la musique électroacoustique sont rares en fait. Je sais pas si avant ça.
Mais en même temps, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça permet justement de faire la différence quand on écoute sur un vrai dispositif avec une qualité sonore réelle. Et puis, effectivement, c'est beaucoup sur les petits haut-parleurs comme ça, mais c'est aussi au casque. Il y a beaucoup donc l'utilisation du casque est quand même un vrai apport qualitatif. Donc, c'est toujours complexe, ce genre de choses. On perd sur certains plans, on gagne sur d'autres. Moi, je suis un grand partisan du MP3, parce que je pense que là aussi, il y a du discours dangereux, en fait. Du discours magique. Le son est vraiment le lieu du discours magique. C'est-à-dire comme ça ne se voit pas, on peut lui faire dire n'importe quand, lui balance toutes les grosses merdes, comme avec l'Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment le son. Moi, quand j'étais ado, il fallait faire tourner les disques à l'envers pour écouter la voix du diable. Aujourd'hui, le MP3, ça abîme les oreilles des jeunes. Ce que je fais quelquefois, c'est que je fais écouter aux gens à l'aveugle, en fait. Un son AIFF, le son d'origine, et puis le MP3 sur des bonnes enceintes. Et je leur demande lequel est l'original. Bon, bah, 99% des gens, au-dessus de 64, au-dessus de 64 kilobits par seconde, sont incapables de reconnaître. Donc même ceux qui prétendent que le MP3 c'est dégueulasse et tout ça. Donc je crois que ça c'est vraiment un vrai sujet par rapport au son, c'est que systématiquement, les gens utilisent le son pour faire de la mystification. Et ça, c'est pas nouveau. En fait, ça date de la préhistoire. C'est-à-dire que le son a toujours été le lieu de la mystification. D'ailleurs, c'est pas pour rien que, en fait, les prêtres se faisaient passer pour Dieu avec le son. Alors que l'interdit de l'image était souvent très puissant, en tout cas dans les religions judéo-chrétiennes musulmanes, monothéistes. Mais l'interdit du son, il n'y en avait pas. Donc le prêtre pouvait être l'incarnation du divin, énoncer la parole du divin, etc. Et c'est seulement avec l'invention du phonographe qu'on a commencé, mais alors très 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 lentement, à se rendre compte que à partir du moment où le son était un objet, il avait le même statut finalement que, dans une certaine mesure, que l'image. Sauf qu'il a cette dimension immatérielle qui fait que il reste impalpable. Donc on peut continuer à lui faire dire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un sujet. Philosophie, le débat, société, etc. Alors, donc, voilà, je voulais vous parler de musique cinétique. Donc, l'octophonie, la spatialisation, c'est très bien. Tu,
non,
rien,
ça va. Je t'écoute attentivement.
La spatialisation, c'est formidable, parce que ça donne une immersion, ça donne une qualité sonore. L'espace commence à exister, alors que sinon... le son du haut-parleur est totalement ponctuel. Et donc, il écrase tout, en fait. C'est comme si le monde de la musique, quand il passe dans un haut-parleur, s'écrasait sur la membrane. Alors que quand on est dans la vie, dans la ville, qu'on écoute la pluie, qu'on écoute le vent, qu'on écoute les foules, qu'on écoute les circulations routières, on a un vrai, véritable plaisir de la manière dont les choses évoluent, bougent. On est dedans, quoi. On fait partie de l'histoire. Mais au-delà de ça, on a commencé donc à s'intéresser à la spatialisation d'abord d'une manière très très basique, puisque les premiers essais c'était vraiment faire des trajectoires, faire balader le son de gauche à droite sur un haut-parleur ou sur un autre. Et on a de très belles réalisations, par exemple sur la pièce Hétérozygote de Luc Ferrari qui a été composée à la fin des années 60. On a un bipiste, c'est-à-dire qu'on a une gauche et une droite, enfin, c'est-à-dire qu'un son sur la gauche, un son sur la droite, quelquefois des sons au milieu. Et ça fonctionne très bien. Dans les mixages des Beatles, on a des choses très intéressantes aussi sur le plan de la spatialisation, avec donc des choses comme ça, très gauche-droite, ou des plans proches, des plans lointains, des jeux de filtrage qui créent des plans aussi par effet de proximité. Enfin, voilà. Et puis après, on a commencé à travailler la stéréophonie, alors beaucoup plus. Et on a essayé de penser ça à partir de la haute fidélité, c'est-à-dire qu'on a pensé qu'on allait reproduire en fait la haute fidélité dans l'auditorium, ce qui n'a jamais vraiment très très bien marché. Aujourd'hui, on continue à faire ça, mais avec le 5.1, le 7.1, la WFS, on a toujours cette idée qu'on va pouvoir reproduire la réalité avec le son. Mais en fait, c'est assez peu créatif, c'est-à-dire que c'est pas inintéressant, c'est même très intéressant, mais c'est assez peu créatif dans la mesure où, dès qu'on commence à faire vivre des événements, à leur demander d'avoir un comportement expressif, c'est pas assez fort, quoi. C'est comme si on faisait du théâtre, mais il fallait mettre un écran pour que les personnages aient l'air d'être bien plats. Enfin, y a un truc comme ça, y a une espèce de décalage. Donc, moi, ce côté théâtral, je le vois aussi dans cette idée de ne pas être dans la haute fidélité, mais au contraire dans l'infidélité au sens de créatif. Pas au sens humain. C'est-à-dire d'utiliser n'importe quel dispositif sonore pour ce qu'il peut faire. C'est-à-dire un phonographe, ça a un son absolument sublime, mais ce n'est pas pareil qu'un haut-parleur. Un petit haut-parleur grand comme ça, ça peut être absolument magnifique, mais on ne va pas faire passer les mêmes sons qu'avec un haut-parleur large bande. La haute fidélité, ça peut être très bien, mais il faut être assis dans son fauteuil et surtout ne pas bouger. Tout ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. J'ai assisté à une démonstration de haut-parleur Cabas quadricoaxio, qui a le petit tweeter, puis le médium, puis le gros médium, puis le boomer. Ils sont emboîtés l'un dans l'autre. Et quand j'ai assisté à cette séance, j'étais avec les gens de Cabas, parce que c'était le designer des enceintes qui m'avait invité. Et il était vachement fier, et on s'est assis dans un salon, enfin dans un fauteuil, on a écouté, dans un canapé, on a écouté un chœur. Et effectivement, on entendait vraiment les chanteurs vraiment à leur place dans l'espace des deux haut-parleurs. Puis à un moment, je me suis levé pour aller chercher un carnet ou je ne sais plus quoi, mon téléphone, et là, tout d'un coup, l'image a complètement disparu, mais en un instant. C'est-à-dire que c'était tellement pertinent et performant qu'à une position fixe, les plans étaient parfaits, mais dès que je me déplaçais un petit peu, je perdais complètement l'image. Alors que si on avait eu plein de haut-parleurs, je ne les aurais jamais perdus. J'aurais jamais perdu la position de chaque. J'avais eu par exemple un gros haut-parleur pour la voix de basse, un petit haut-parleur pour la voix de soprane, j'aurais pas perdu l'image. Donc ce que j'ai gagné avec une extrêmement grande qualité dans un certain sens, je l'ai perdu dans un autre. Et donc, dans le cadre d'Octophonie à La Rochelle, qui était un projet d'expérimentation en 1994, Pierre Boisvilval, qui était responsable de cette scientifique ou artistique de ce projet, je ne sais pas comment on peut dire, voilà, nous avait dit, voilà, c'est un octuor de haut-parleur. Chaque haut-parleur, c'est un point. Et donc, vous allez considérer qu'il n'y a pas de plan lointain, il n'y a que des plans proches. Vous jouez, chaque haut-parleur est un instrument et il joue ce que lui peut jouer, c'est tout. Et puis le haut-parleur d'à côté joue autre chose. Donc, on avait travaillé dans cette perspective-là, mais moi, je m'intéressais un petit peu à d'autres choses, et notamment à des processus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait créer des processus sonores qui permettaient que les haut-parleurs ne soient pas considérés comme une piste, comme un tunnel, et puis l'autre comme un autre tunnel, etc. Donc, vous savez que sur les logiciels ou les dispositifs d'enregistrement multipiste, vous avez des pistes. Voilà. Chaque piste, c'est un tunnel. Il y a un son sur une piste. Si vous voulez, vous pouvez le couper et puis déplacer un bout sur une autre piste, puis le recouper et le remettre sur une autre piste. Mais à chaque fois, c'est une opération relativement lourde, alors qu'il n'y a aucune raison que ce soit comme ça. On pourrait très bien avoir quelque chose de beaucoup plus volubile, qui passe de l'un à l'autre, qui se déplace, qui s'éloigne, qui se rapproche même. Donc on pourrait avoir... Donc, ces différentes techniques, en fait, qui m'ont amené à créer cette idée de musique cinétique, dans la mesure où c'est plus simplement essayer de profiter de l'immersion dans l'espace sonore que propose un grand nombre de haut-parleurs, mais d'utiliser les haut-parleurs comme le mouvement et les positions comme un langage. Vous connaissez sans doute l'artiste allemand Bernhard Leitner. Non. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé justement sur la spatialisation sonore de très tôt. C'est pas comme ça que ça s'écrit. Bernhard, voilà, comme Thomas Bernhard. Je vais vous montrer juste si je trouve une illustration. Donc voilà, par exemple, les choses qu'il a fait avec des trajectoires, en fait, qui sont des objets. Donc le son parcourt c'est cet objet comme une trajectoire. Donc lui, il a commencé assez tôt à travailler là-dessus, hein, dans les années 60. Mais il est assez peu connu en France, en fait. Et il a fait beaucoup d'installations comme ça, mais souvent avec des sons extrêmement élémentaires. Ce que moi j'essaye de faire, c'est de travailler avec des sons plus élaborés, c'est-à-dire une véritable composition électroacoustique. Donc je vais vous faire entendre, j'ai arrêté de parler trop, je vais vous faire entendre l'extrait qu'on a monté ici, qui est une pièce qui s'appelle Rotation 2, que j'ai composée en 2006, et qui joue en fait sur des systèmes de rotation. Alors quand je dis rotation, ça veut dire que ça va faire tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, voilà. En gros, avec des petits sons très courts, des petits... mais il y a aussi d'autres plans. Et puis, il y a aussi... Enfin, la rotation, on la retrouve à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est la rotation dans l'espace, mais c'est aussi la rotation, le décalage. Donc, on va avoir... Donc, ça va se... On va avoir une désynchronisation, puis une resynchronisation, qui va être mesuré, qui va faire qu'on va créer un rythme en désynchronisant, en resynchronisant. C'est des choses qui ont déjà été explorées hein, par Ligeti, notamment, mais aussi d'autres musiciens. Mais là, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Voilà. On ne va pas écouter l'intro, on va écouter directement le passage où ça commence à partir. Et on va écouter peut-être jusqu'à la fin de la pièce, si vous voulez bien. Thank you.
Thank you.
je vais pas faire l'analyse de la pièce, hein, mais il y a des, en fait, il y a des choses qui sont des techniques que qu'on appellerait, moi j'appelle point à point, un petit peu ce que je disais par rapport au projet de Delta P, de Octophonie à Delta P, c'est-à-dire les sons sont joués vraiment au ras de la membrane, donc il y a pas de, et puis il y en a d'autres qui sont joués à distance. Il y en a d'autres qui sont des prises de son, donc qui ont leur propre camp. Mais ce qui est quand même enfin, pour moi la grande découverte de cette pièce, que j'ai fait en travaillant sur cette pièce et déjà un petit peu avant, c'est qu'au lieu de créer les sons en mono ou en stéréo, et ensuite de les balader sur un dispositif multipoint, les sons sont directement créés en multipoint avec des processus. C'est ça. Parce que déjà, quand on est passé de la mono à la stéréo, en fait, on a mis deux micros. Ou bien on a eu des synthés qui sortaient en stéréo et on faisait chung-chung-chung-chung-chung, comme ça. Bon, ben, pourquoi on ne fait pas la même chose avec multipiste ? C'est-à-dire, au lieu de créer les trucs en stéréo, puis ensuite de les reporter sur multipiste, ce qu'on continue à faire la plupart des gens, moi, j'ai commencé à créer directement les sons en multipiste avec des processus. Donc, en fait, j'ai utilisé MaxMSP pour produire des processus génératifs contrôlé, qui me permettait et donc la découverte de ce travail-là, c'était à Delta P, dans la résidence d'octophonie, quand j'ai pris un son blanc et j'ai fait des vagues pour faire de la mer. Je me suis aperçu qu'on pouvait faire la mer très bien avec du son blanc et juste des enveloppes de comme ça. Et de là, bah, j'ai continué à tirer le fil et puis ça m'a amené à ce genre d'expérimentation.
Alors, tu peux préciser, faire directement de l'octophonie avec des processus, c'est-à-dire soit 8 micros ou bien...
Ça veut dire que j'ai 8 sorties.
Ensuite
J'ai 8 sorties, fait, et sur chaque sorte, et donc le mécanisme de production des sons envoie directement le son sur les 8 sorties, et pas juste sur 2, que ensuite je vais mettre dans un multipiste, deux pistes par deux pistes.
Ça peut être une prise avec un seul micro, mais réparti sur 8. En fait.
Ça peut être enregistré avec 8 micros, avec un seul micro, mais c'est surtout des processus génératifs. Oui. C'est-à-dire, par exemple, je crée un rythme qui va faire... donc, par exemple, dans Count Basis, qui est une pièce que j'ai fait après, c'est un compteur avec un octet. Chaque haut-parleur correspond à un bit de l'octet. Donc, quand le compteur passe à 1, il joue le son. Et le compteur, en fait, il compte avec des multiples. C'est-à-dire que quelquefois, il compte de 1 à 1, mais de 3 à 3, ou il fait 3 à 2, il compte à chaque fois, il change de rythme de comptage, et du coup, ça crée une musique comme ça, en déclenchant juste des échantillons. Voilà, ça, c'est un principe que j'ai utilisé.
Mais là, ça reviendrait à faire 8 tunnels et à ouvrir le volume des tunnels.
Ça revient à ça. En fait, je le fais pour chaque voix, pour chaque piste. Et dans mes sessions, je peux avoir 64 pistes avec des groupes de 8, par exemple.
Parce que là, il y a des moments où il y en avait beaucoup. Moi, je n'arrivais pas trop à entendre les mouvements. Mais il y a des moments clairs où on sent que ça passe. Et moi, ça me fait vraiment penser... On a vraiment l'impression qu'il y a un bouton qui peut faire comme un pan, quoi,
oui,
de gauche à droite, mais sur la totalité des enceintes.
Voilà,
je comprends pas comment ça peut marcher. Faut passer par techniquement, quoi. Faut passer par Max.
Ça peut être autre chose que Max. On pourrait le faire à la main en collant le petit bout de son. On pourrait le coller à la main, tac, 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 tac. Sauf qu'il y en aurait tellement à coller que ce serait pas en place, etc. Ce qui est intéressant avec ce que je viens de vous faire écouter, c'est qu'on est loin de la musique instrumentale, là. C'est-à-dire que les instrumentistes ne feraient pas ça, parce qu'ils ne sont pas assez rapides, pas assez précis. Tout ce qui me permet d'aller au-delà de ce qu'on peut faire avec l'instrument m'intéresse. Ce n'est pas que je sois contre l'instrument, j'adore la musique instrumentale, mais moi je ne peux pas en faire parce que je suis nul. En plus, quand je fais de la musique instrumentale, je fais de la soupe. Je fais de la musique sirupeuse, du piano jazz, de bar, de seconde zone. Mais j'adore la musique contemporaine instrumentale, voilà, mais ce n'est pas mon truc. Ce que je fais, c'est ça. Voilà. C'est de la musique électroacoustique, très contemporaine, mais complètement différente de ce que font les musiciens contemporains en musique instrumentale. Et je pense que bon, y a des gens qui peuvent faire les deux, qui peuvent faire un peu d'électroacoustique, un peu d'instrumental, même beaucoup d'électroacoustique, beaucoup d'instrumental, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Mais bon, moi, c'est pas ça. Alors, je peux vous faire entendre un truc, d'ailleurs, à propos de spatialisation, qui peut être assez sympa. Ça va nous amener dans un autre domaine.
C'est vraiment propre aux outils d'aujourd'hui aussi, puisque ça, avant, vous ne pouvez pas le faire. Si, l'octophonie dans les années 80 ou 90, vous faisiez avec des quatre pistes.
On arrive à faire des choses pas mal.
Techniquement, oui, mais avec des projets sonores et musicaux qui n'étaient pas ce que Roland explore.
Et comment on faisait pour faire?
Il y avait des magnétophones de 8 pistes, 24 pistes, et puis on mixait sur. Ouais. On enregistrait sur des pistes différentes. Bien sûr, en analogie.
Pourquoi vous disiez qu'il fallait se mettre dans cet axe-là ?
Alors ça, c'est très intéressant comme question, parce que effectivement, c'est quelque chose dont je me suis aperçu. C'est que si on se tourne, en fait, la musique, la pièce est faite dans cet axe. Mmh. Et qu'on a une sensibilité qui n'est pas du tout la même si on tourne d'un quart ou d'un demi-tour. Et donc, en fait, au départ, je ne pensais pas ça. Je me disais, ça tourne, c'est en rond, donc on se met dans le rond. Sens, ça pose pas de problème. Sauf que quand j'ai commencé à travailler précisément les processus sonores, je me suis aperçu que tout était axé. C'est-à-dire qu'il y avait un point de départ, un point d'arrivée, qu'il y avait des choses qui se déplacent, qu'on entend venir vers nous, il faut qu'elles viennent de devant, parce que sinon on ne s'entend pas venir vers nous, elles viennent de derrière, mais elles passent devant, et de gauche à droite, mais ça n'a pas du tout le même statut. C'est-à-dire qu'en fait, la manière dont on écoute quelque chose qui passe devant ou quelque chose qui passe de gauche à droite, c'est pas la même. Donc, en fait, tous les effets qui marchent dans un axe se perdent dans un autre.
Donc, c'est ce que vous disiez sur le petit haut-parleur, là, vous parliez, qui restitue l'espace que quand on est à un endroit.
Voilà, c'est ça. C'est quand même assez bizarre, ce genre de choses. C'est toujours plus compliqué qu'on le pense, en fait. C'est moins évident. Quelquefois, c'est plus simple.
Alors là, je voudrais juste vous montrer un petit exemple d'un phénomène très élémentaire. Alors, par contre, il va falloir que je change le numéro de sortie, je crois. Donc,
pour finir de répondre à la Rochelle, on avait un magnétophone à cassette 8 pistes. Pour avoir une qualité, ça défilait beaucoup plus rapidement, si tu veux. Mais comme ça, on n'allait pas mettre 8 pistes. La partie de magnétophone stéréo, on faisait un mixage quand on participait sur.
Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est, je vais juste vous faire entendre, si ça marche, un bruit blanc. J'espère qu'il ne va pas cracher. Donc, vous entendez ce bruit blanc, d'accord ? Il est réparti de façon un peu trop homogène, mais... Ouais, mais là, je pense qu'on peut pas faire grand chose en fait. Mais peu importe, bon, vous comprenez, c'est pas très grave. Oui, ouais. Et voilà, ça c'est le même bruit blanc qui est envoyé sur toutes les enceintes. Maintenant, je vais vous faire entendre attention. Ça, ce sont les accidents de studio. Ça m'arrive malheureusement de temps en temps. Après, on a mal. Moins 100. Voilà. Normalement, il devrait y avoir un petit truc qui le fait automatiquement. Mais attention, bouchez-vous au cas où. C'est bon. C'est bon, cette fois. On écoute le même son. Mais c'est pas du tout le même. On va comparer. Celui-là paraît dégueulasse maintenant qu'on a entendu l'autre. Ça, ça paraît tout pourri en fait. Et là, presque beau.
Parce que là, c'est vif, bruit blanc qui sont envoyés. Donc c'est des bruits blancs, donc c'est toujours différent. Quoi.
Ils sont tous différents en fait. Ils sont tous différents et on a une expérience qui est beaucoup plus riche. Voilà. Voilà. Là, on a une, là, on a une cascade, alors que sinon, on a un bruit blanc. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important, parce que c'est cette notion de diversité. Il y a un thésard du CNAM, du laboratoire Cédric, de Stéphane... et Cécile Le Prado, Stéphane Natkin et Cécile Le Prado, donc DEA jeux vidéo, qui a fait une thèse justement où il a fait des machines pour produire de la pluie, du vent, de la mer, des voitures, des moteurs de voitures pour les jeux vidéo, etc. Et il a travaillé sur cette notion de diversité et dans son projet de thèse. Et c'est tellement pertinent que voilà, en musique on le sait depuis longtemps, mais là, il l'a montré, il lui a donné un nom. Et donc, voilà, je crois que la manière dont on écoute quand on est dans cette situation est complètement différente. D'abord, il y a beaucoup moins d'effet de masque. C'est-à-dire que si on... Voilà, là, on peut se parler. Il n'y a plus de sweet spot, de point chaud. Même dans la pièce qu'on a entendue précédemment, on peut bouger sans trop de problème. On est moins aveuglé par une enceinte qui est à côté de nous. Donc actuellement, on travaille à l'ENSI autour de ces notions-là et on travaille sur la sonorisation des cafés-restaurants. Et l'idée, c'est de faire en sorte d'aller au-delà de l'expérience assez désastreuse qu'on a de l'accumulation de la musique avec la parole, qui fait qu'on ne s'entend pas parler, qu'on n'entend pas la musique. Donc on va essayer de voir si on peut aller un peu plus loin. Alors, je voudrais maintenant vous montrer d'autres...
Oui. Bonjour.
Alors ça, c'est une solution, mais ce n'est pas forcément indispensable. Je pense que ça peut être pas mal aussi, des fois, d'avoir un peu de musique, mais il faut que ça, voilà, que ça cohabite et que ben, si on écoute très fort, on ne parle pas, mais qu'on puisse avoir la possibilité de varier, d'avoir des endroits un peu plus calmes, un peu plus bruyants, enfin, et puis d'avoir une vraie expérience musicale avec une vraie...
À Taïwan, j'ai vécu un restaurant où ils adaptaient la musique en plus au plat qui était servi. Mais c'était une super luxe, mais c'était assez étonnant.
Ça marchait bien.
Ah ouais. Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Mais bon, ça, ouais.
Si tu te souviens d'où c'était, moi, ça m'intéresse.
Oui, l'adresse. Ouais. En plus, c'était bâti sur l'eau. Un restaurant bâti sur l'eau. Hallucinant. Japonais. Enfin, un restaurant
japonais à Taïwan.
Une bouffe japonaise à Taïwan.
Mais je pense qu'effectivement. En Extrême-Orient, il y a beaucoup de préoccupations comme ça sur l'ambiance musicale qui sont quelquefois très pertinentes. Quoi. Dans les toilettes, par exemple. Enfin, c'est un petit détail, mais c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, donc on va passer un peu à d'autres registres, en fait. Et notamment à tout ce travail que je mène sur l'audiographie et l'espace d'un point de vue plus fonctionnel. Donc, et cette dimension design sonore que j'aimerais aborder avec vous, qui est sans doute assez étrangère à l'approche qu'on a souvent dans les écoles d'art, mais qui fait sens. Alors comment comment je définis le design sonore ? Comme ça, on résout cette question tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de malentendus là aussi. Design sonore, il y a beaucoup de gens qui disent le design sonore, c'est la bête noire, c'est l'instrumentalisation de la musique, c'est les défroqués de la composition, c'est enfin, en même temps des vertes et des pas mûres, c'est la musique au service du marketing, bref, bon. C'est n'importe quoi. La réalité, c'est qu'est-ce que c'est que le design sonore ? C'est, pour moi en tout cas, c'est la création sonore, la création de sons ou la création de dispositifs sonores fonctionnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que en musique ou en art en général, parce que là en art contemporain, c'est un peu en train d'évoluer, heureusement, le cadre est fixé. C'est-à-dire que c'est le concert, c'est le tableau, c'est le... voilà. En design, en création industrielle, en art contemporain, le cadre n'est pas fixé. C'est à nous de le fixer. Et souvent, quand on travaille pour de la fonctionnalité, donc qui n'est pas forcément, ce n'est pas le cas en art contemporain, puisqu'on travaille pour l'œuvre, c'est-à-dire pour produire une entrée dans une vision, pour mettre en forme une vision, ou des choses de ce type-là, en tout cas, en design fonctionnel, on ne va pas forcément essayer de mettre en forme une vision, ça peut arriver quelquefois, mais la plupart du temps, on va plutôt essayer de donner une réponse adéquate, expressive, agréable, appropriable à une problématique fonctionnelle. Mais la problématique fonctionnelle, elle peut être multiple. Elle peut appartenir au domaine du business, elle peut appartenir au domaine de l'utilité, elle peut appartenir aussi au domaine de l'art, dans la mesure où il y a cette notion de fonction. Donc, moi, je m'intéresse à cette fonction, justement. Je pense qu'elle est présente dans l'art, mais elle est présente aussi dans toutes sortes de choses. Et je pense que les artistes peuvent être des personnes tout à fait valables pour faire un travail fonctionnel, mais il faut qu'ils travaillent cette question. Et c'est ce qu'on appelle le design. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois artiste et designer, on peut être designer sans être artiste, on peut être artiste sans être designer. Voilà, c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec la musique électroacoustique et la musique instrumentale. C'est des champs qui peuvent se côtoyer, s'imbriquer même souvent. Il y a beaucoup de designers qui font finalement de l'art et beaucoup d'artistes qui font finalement du design. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les questions pour moi ne sont pas les mêmes. Et la manière de travailler n'est pas la même. Alors, moi je me suis intéressé, là je ne parle pas vraiment de design, mais d'objets, de formes différentes de l'art habituel, conventionnel, enfin, si tant est que la musique électroacoustique soit une forme conventionnelle, à des notions d'audiographie. Donc, ce que j'appelle audiographie, c'est quand il y a le son et l'image, mais pas l'image filmée, l'image créée, c'est-à-dire l'image, le graphisme et notamment l'infographie. Quand j'ai fait beaucoup de théâtre, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, et puis à un moment, j'ai eu des enfants. Je pouvais difficilement être tous les soirs, tous les matins, toutes les nuits, tous les week-ends sur le plateau. Et j'ai commencé à faire du théâtre sur un écran d'ordinateur, comme beaucoup de gens sont tombés dans l'ordinateur. Et donc, je me suis intéressé à cette question d'audiographie, notamment, et d'essayer d'avoir des synchronisations et des relations entre les sons et les contenus visuels. Mais j'irai un petit peu plus loin après. Ça m'a amené à faire quelques œuvres comme ça, comme le mandala électronique, qui était une carte postale audiographique, une carte de vœux, en fait, de bonne année, mais qui crée un mandala, une espèce de chose concentrique comme ça, et qui s'appelait mandala, mais c'est pas moi qui ai trouvé le nom. Moi, c'était juste un truc qui tournait, et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est un mandala. Donc, on a appelé mandala électronique. Mais ça qui faisait aussi beaucoup de musique, de son. Et il y a une espèce de côté un peu contemplatif, hypnotique, comme ça. Et puis, j'ai travaillé dans les CD-ROM, sur un CD-ROM sur Léopold Sédar Senghor en 95. Et puis, en 95-96, j'ai commencé un projet de réalité virtuelle sonore, qui est pas des premiers, parce que la réalité virtuelle, ça remonte aux années 60 déjà, mais un projet artistique de réalité virtuelle avec de la musique, je pense que c'était un des premiers. Et donc, c'était avec Yvan Chabanneau et Bruno Herbelin au CICV. qui est le Centre international de création vidéo à Montbéliard. Et donc Yvan, qui malheureusement est décédé cette année, qui était un artiste numérique tout à fait extraordinaire et qui a vraiment été aussi une personnalité, parce que c'est quelqu'un qui était complètement féru de musique contemporaine, contrairement à la plupart de mes collègues artistes qui, quand je vois ce qu'ils écoutent sur Spotify, je suis absolument horrifié. Lui, il avait une culture en musique contemporaine qui était plus développée que la mienne. Connaissait mieux la musique contemporaine que moi. Mais ce que je dis sur les artistes visuels, on pourrait le dire aussi sur les musiciens qui sont totalement ignares en art contemporain. Voilà. Et donc Yvan avait cette idée qu'on pouvait mettre un casque de réalité virtuelle pour devenir Icar. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo ou une partie. Alors, on va avoir toujours le problème du son. Qu'est-ce que je vais faire pour ça ?